Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Salut les auditeurs de M57, c'est Nelly, bienvenue dans Try Again. Comme vous le savez, si vous êtes des habitués, nous allons décortiquer pour vous, et avec vous, un jeu rétro qui vous rappellera des souvenirs ou qui peut-être vous donnera envie de ressortir vos meilleures consoles et vos vieilles consoles surtout. Et cette semaine, c'est un nom un peu à rallonge que l'on va décortiquer, c'est Super Puzzle Fighter 2 Turbo sur Sega Saturn. Et puis évidemment, vous le savez, comme d'habitude, vous les attendez tous, c'est mes hommes, les hommes de l'équipe, les voix viriles de l'équipe. On aura d'abord ce soir Ellie qui va m'aider dans ma tâche, qui présentera le Insert Coins. Bonsoir Ellie.
Bonsoir, tout
Qu'est-ce
à fait.
Qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Alors, je vais vous parler un petit peu des personnages du jeu.
Et puis évidemment, un jeu comme celui-là, ça ne peut être que Martin qui nous le propose pour le Versus Mode, n'est-ce pas ?
Bonsoir à tous, bah ouais, moi j'ai choisi ça, ça pose un problème ?
Ah non, pas du tout, pas du tout.
Okay.
Et puis pour finir, on finit en beauté, ce sera Lionel qui finira avec le Reload.
Bonsoir à tous.
Qu'est-ce que tu nous proposes Lionel ce soir ?
Je vais vous parler des puzzle games.
Des puzzle games, tout simplement. Eh ben, on se met dans l'ambiance, on se met dans le bain et on écoute Rio Stage.
M57, it's a move.
It's a move.
M57 Radio.
Ah, quel bon choix de musique, Martin.
Merci,
super, je vais me lancer dans les compositeurs.
Hein. Alors, je crois qu'il y en a quatre. Hein.
Isao Abe, Yuko Kadota, Siyun Nishigaki et Tatsuro Suzuki.
Voilà. Bravo.
Ah, le japonais. Hein.
Et puis, on rentre dans le vif du sujet. On va pas perdre plus de temps avec le compositeur japonais, je crois. Hein.
Alors, moi, je vais prendre la parole. Dans cette partie Insert Coin, tout d'abord je vais vous dire pourquoi j'ai aimé les musiques, parce que c'est Street Fighter, et Street Fighter c'est vraiment une de mes séries cultes. Alors je vais vous parler un petit peu des différents personnages qu'on peut retrouver dans le jeu. Alors tout d'abord il y a des personnages de Street Fighter, donc les traditionnels Ken, Ryu, Chun-Li.
Qu'on avait décortiqué d'ailleurs
dans
une précédente émission.
Ouais, ouais, tout à fait, avec leur historique et tout. Et on retrouve aussi Sakura, donc Sakura c'est une fan de Ryu qui veut l'imiter... Et la première apparition, c'est dans Street Fighter Alpha 2, et elle apparaît aussi dans Rival School. Donc voilà, la petite écolière fan de Ryu. Il y a également des personnages cachés, il y a Akuma, Goki en japonais, donc c'est la puissance démoniaque. On le retrouve pour la première fois dans Super Street Fighter 2 Turbo, il me semble, c'est un boss caché. Et là, pareil, c'est un boss caché dans le jeu également. On retrouve Dan, qui est l'inventeur d'un art martial qui s'appelle le Saikyo. et on le retrouve la première fois dans Street Fighter Alpha. Alors Dan, c'est un petit peu un personnage particulier, je sais pas ce que
c'est,
vous en pensez.
C'est un personnage mythique, Dan.
Ouais. Parce
c'est
que...
un personnage blague.
Ouais, personnage blague, parce que il est pas... c'est vraiment un personnage qui est moins fort que les autres, parce que dans ce jeu, comme c'est un puzzle game, on peut envoyer des choses chez l'adversaire pour l'embêter, et lui, il envoie d'une façon qui embête un peu moins, on va dire.
Je vais expliquer ça après, en plus en détail.
Plus en détail. Alors voilà les 6 personnages issus de la licence Street Fighter, mais on a aussi des personnages qui sont issus de la licence Darkstalkers, donc aussi un jeu Capcom, bien évidemment. On retrouve tout d'abord Morrigan, qui est une sorte de succube.
C'est une succube.
Ouais, c'est une succube.
Et dont on peut déjà annoncer qu'on entendra un petit bout de musique tout à l'heure.
Ouais.
Voilà, dans la prochaine musique, comme ça vous le savez.
Ah, ça va nous faire plaisir. Alors on retrouve d'autres personnages comme Donavam, qui est un Dampire. Un Dampire, c'est D-H-A-M-P-I-R-E. Donc c'est une personne qui est née d'un père vampire et d'une mère humaine. Et en fait, les Dampires, généralement, ce sont des tueurs de vampires.
Quoi ? Ils veulent tuer alors qu'ils ont du sang vampire.
Ouais, ils sont à moitié.
Mais
et comme
incroyable.
Ça, ça leur permet d'être assez balèze pour concurrencer les vampires. Ouais, c'est sympa. Alors, un autre personnage, c'est Yen Ko. Alors, c'est un cadavre raide dans la mythologie chinoise, un Jiangshi. C'est comme ça que ça se prononce, je crois. Vous savez, ce genre de cadavres qui font des bonds, qui se nourrissent de l'énergie vitale, voire même du sang éventuellement. Ça, c'est un peu plus récent. Ils sont mis à... dans la mythologie chinoise, à dire « Ah, ils peuvent aussi se nourrir de sang, de chair humaine. » Comme ça, ça fait un peu comme les zombies.
Ça fait plus gore, ça attire plus de public. Ouais.
Juste pour le délire, en fait, ils en avaient foutu dans Mario Land 1, dans le monde 4. C'était des sortes de petits chinois qui
sautaient. Ah, les trucs qui sautillent.
Ouais, qui sautaient. Ouais, tu sautais dessus, par ils se relevaient, c'était ça, en fait.
Ah, d'accord. Et donc, c'est pour ça que nous, on savait pas ce que c'était à l'époque, quoi.
Ouais, on retrouve dans le dernier Castlevania sur DS aussi, il y a un boss caché qui est vachement difficile à battre et qui est aussi un Jiangshi. On retrouve également Felicia, qui est une femme chat, ou Kemeno.
Ça doit vous plaire, ça.
Ouais.
Ouais, on adore.
Elle est trop faible dans le jeu, mais sinon, elle est bien.
Ouais, donc le Kemeno, c'est un art japonais dont les personnages sont des animaux avec un corps d'homme. Ou un... voilà. Un peu comme des Minotaurs.
Ah ouais.
Voilà. Sinon, en... autre personnage caché, mais cette fois qui vient pas de Darkstalker, on retrouve Devilotte. Alors Devilotte, on la retrouve dans Cyberbot Full Metal Madness, qui est un jeu de baston avec des robots ou des mechas, des grosses machines qui se mettent sur la gueule. Donc
c'est un sacré mélange quand même, les personnages.
Ouais, il y en a pas mal. Sachant qu'en plus, il y en a qui sont accompagnés, parce que ça, il a pas précisé, par mais Donovan, il est accompagné de Anita, qui est une petite fille qu'il veut sauver, et en fait, il pense que Anita a son destin entre les mains.
D'accord.
Et Devilotte aussi n'est pas tout seul, il est avec Jigoku Taishi, The Hellmaster et le Dr. Stein, et ensemble ils forment The Death Satan Family.
Ah ouais. Ça serait presque une équipe de catch, presque.
Ouais, presque. Hein.
Voilà, Devilotte, donc le jeu Cyberbots, il est sorti sur arcade, sur Saturn et sur PlayStation également.
Ok. Voilà. Moi j'ai quelques précisions à faire encore sur les personnages, parce que dans la notice du jeu il te marque un petit peu pourquoi ils sont là et pourquoi ils se fightent. Il y a des trucs assez énormes, quoi. Genre t'apprends que Felicia, effectivement, c'est une femme adorable, câline typique, qui rêve de devenir une chanteuse star du rock.
Mm-hmm.
Tu imagines une femme chat star du
une
rock.
Une femme chat star du rock. Tu vas me dire, il y a des rockers avec leur paturlure sur le visage, ils ressemblent à rien non plus.
Voilà,
donc,
quoi. Et puis on t'apprend aussi que Ken pense être doté de la plus grande puissance cérébrale.
Ah ouais.
Ah, un intellectuel.
Ah, et en fait,
il pense que
c'est ça, c'est qu'en fait il y a des phrases comme ça qui sont lâchées dans la notice, et moi ça m'a fait beaucoup rigoler, quoi. Donc j'ai bien aimé ce genre de petit truc, genre Morrigan à la fin on demande est-ce qu'elle trouvera un adversaire capable de satisfaire ses besoins de combat nocturne. Alors je sais pas
quel
genre de combat nocturne elle veut faire. Donc voilà, il y a des trucs
un peu
rigolos.
Pas mal.
Et dans les traductions des fois ils sont un peu plantés, enfin c'est assez rigolo, donc voilà, s'il y a des gens qui veulent voir ça. Alors je tiens à spécifier déjà par rapport à une question qui arrivera bien plus tard dans l'émission. Dans la traduction des notices, ça change selon la version du jeu, parce que le jeu a été porté sur différents supports que j'expliquerai après, et donc chaque notice a des traductions légèrement différentes, donc c'est assez rigolo de les comparer, de voir
d'accord,
que des fois
ouais.
Les traducteurs sont pas d'accord.
Ouais, ouais, tout à fait, ça peut donner des, enfin, des sacrées comparaisons.
Ouais. Ouais, puis des fois, en fait, ils comprennent pas le sens du jeu, donc ils sont un peu à côté de la plaque aussi, mais ça
s'est
arrivé dans
certaines traductions. D'accord, ils cherchent pas à connaître
le jeu. C'est ce qu'on en a déjà parlé, hein, des erreurs de traduction qui
oui,
sont dues au fait qu'on donne à un gars qui a jamais vu un jeu vidéo de sa vie, ni le jeu vidéo en question de sa vie, et il traduit un peu comme ça vient, on va dire.
Google traduction, quoi.
Ouais.
Bah les garçons, ça y est, c'est fini ?
Ben ouais, on va
bien. Bravo,
temps,
c'était
ce
condensé,
soir,
voilà. C'était top. On a bien compris l'univers dans lequel on allait plonger. Et puis donc comme je vous l'ai dit, alors on a vous savez qu'on travaille bien pour vous, on vous prépare les plus belles musiques, on les trie, on les sélectionne. Et là Martin il a bossé parce qu'il veut vous en faire entendre plein.
Mais en fait, la musique, c'est une musique, mais si tu veux je l'ai mis ambiance du jeu.
D'accord.
Parce que c'est des petits sons de début, de lancement et de fin quoi. C'est comme si maintenant tu lançais le jeu chez toi, t'as les petits sons là au début de match, en fin
pour
de
vous
match.
Sentir dedans.
Voilà.
Quoi. Donc il y a la petite musique du Versus, il y a le Morrigan Stage donc dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a la petite musique du Victory.
Ben ouais, parce qu'on a gagné avec Morrigan.
Voilà. Et puis on va gagner, puis comme ça on se retrouvera tout à l'heure pour la suite avec Martin.
M57 Radio. M57 Radio.
Nous voilà déjà de retour. J'espère que cette petite pause musique avec toutes les petites musiques, victoires, etc. vous a fait plaisir. Et puis on rentre dans le vif du sujet, dans notre Versus Mode Round 1 avec Martin.
Et ouais. Alors moi je vais d'abord expliquer que le jeu à la base il vient de l'arcade au Japon. Un jeu sorti en mai 96 au Japon qui s'appelait Super Puzzle Fighter de X. Et qu'en fait pour les versions américaines et européennes il s'est appelé Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Qu'après au niveau des portages, il y en a eu quand même un petit paquet, parce que le jeu il est arrivé chez nous non pas en arcade, mais sur PlayStation, sur Saturn, puis sur Game Boy Advance, puis sur Xbox 360, sur PlayStation 3. Donc il y a eu des rééditions beaucoup plus récentes dans ce que j'ai dit, parce que les versions Xbox 360 et PlayStation 3, c'est du HD Remix. Alors je viendrai plus tard sur qu'est-ce que est vraiment le HD Remix dans le jeu. Et en plus de ça, les Américains ont même eu un portage sur PC, un sur BlackBerry. Ils vont encore avoir un portage sur PC du HD Remix. Et le jeu est aussi inclus dans des compilations qui sont sorties au Japon sur Dreamcast et sur PSP. Donc c'est des jeux qui s'appellent Super Puzzle Fighter de X Formatting Service et Capcom Puzzle World. Donc il y a eu quand même pas mal de portages. Il y a eu des différences entre les portages, j'en parlerai plus tard. Et aujourd'hui, j'ai choisi la version Saturn parce que ben j'ai pu y jouer tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc voilà, le jeu est arrivé chez nous en 97, donc un peu plus d'un an après la sortie en arcade. Et comme j'étais un peu curieux, j'ai voulu voir s'ils ont essayé de pondre une histoire pour un puzzle game, un truc un peu farfelu quoi. Donc la notice dit que oui, quand tu démarres le jeu, non, on t'a dit qu'il n'y a pas d'histoire, donc l'histoire de la notice, elle est rigolote, et elle nous fait apprendre qu'on a la fièvre, parce que la notice titre bien, et je cite, « Comment attraper la fièvre puzzle ?»
Wow.
Donc déjà, tu vois, ça met dans le vif du sujet, quoi.
Mais il y en a qui sont hot de base, ils ont pas besoin d'avoir la fièvre pour être hot.
Ils sont pas tous très vêtus, surtout les filles.
Et du coup, on nous apprend que, alors que le combat prenait des allures de bataille générale, la guerre des puzzles éclate et vous plonge alors en plein fouet du conflit. Le nouveau et formidable jeu de Capcom vous propose des règles si simples et si passionnantes que vous ne pourrez plus vous arrêter de jouer. Ne ménagez pas votre adversaire.
en empilant des gemmes les unes sur les autres du côté de l'écran. Utilisez la gemme explosive pour briser les gemmes et laisser tomber sur votre adversaire. Exténué, remplissez le côté de votre ennemi avant qu'il ne fasse de même et le mettre KO.
Ah, même que j'aime ça.
Non mais c'est vrai que dans ce que tu disais, c'est que le principe d'un puzzle game, enfin en général quand on accroche, c'est que le principe est simple.
Voilà.
Ça veut dire qu'on prend la manette, on teste les boutons et c'est bon, on a compris. Après il y a quelques petites choses, des fois des petites subtilités, si on veut faire plus de points, gagner contre l'adversaire, etc. Mais je trouve que c'est ça aussi le principe de base.
Bah là le gameplay il est hyper simple parce qu'il est identique à l'arcade dans toutes les versions, à savoir qu'on joue avec trois boutons plus une croix ou un stick, hein, comme les gens veulent. Sachant qu'il y a un bouton qui va servir, je vais déjà l'annoncer maintenant, à l'humiliation.
Yeah.
L'humiliation est strictement inutile, ça sert juste à envoyer un son dans la gueule de l'adversaire.
Ce qui est génial.
Ce qui est absolument terrible. Et les personnages ne peuvent le faire qu'une seule fois, sauf Dan qui peut le faire à l'infini, parce que Dan c'est le personnage blague dont on a parlé avant Ellie, et que les personnages effectivement ils sont tirés on va dire de trois grosses licences, Street Fighter d'un côté, Darkstalkers de l'autre qui était une grosse licence Capcom au même moment, ainsi que le jeu dont on sortit des vidéos.
Cyberbots.
Voilà, je n'avais plus le nom.
Full Metal Madness.
Voilà. Donc suite à ça effectivement eh ben, on va avoir quand même un gameplay assez simple, donc trois boutons. Et comment le jeu va fonctionner, ben, c'est un puzzle game qui va, on va avoir un écran de jeu et on ne pourra déjà jamais jouer seul. C'est à dire que même si maintenant je vais être joueur humain, je vais forcément affronter l'ordinateur, mais t'auras pas genre un mode comme dans d'autres puzzle games où tu vas être seul et pouvoir jouer à l'infini.
T'as que du versus.
C'est que du versus, c'est que du combat. D'où le nom du jeu, il est
d'où
logique,
la fièvre, voilà. Ouais. Fièvre du puzzle.
La fièvre du puzzle jusqu'au bout, quoi. Et donc l'écran de jeu propose 6 colonnes en largeur et 12 colonnes en hauteur où on peut empiler des briques. Et en plus de ces 12 colonnes, enfin de ces 12 lignes, pardon, on peut en apercevoir le bord de la 13e, là où on va arriver les pièces, même, et le bord de la 4e, de la 14e, on aura des fois des messages qui vont s'inscrire. Donc en fait, on peut poser facilement des pièces sur les 12 premières lignes, mais on peut accéder quand même jusqu'à 14. Et après, ça peut atteindre des fois le jeu peut avoir en mémoire des trucs qui sont encore au-dessus, mais qui vont tomber que plus tard, par exemple.
Ah ouais,
ça peut arriver. Donc en fait, si tu veux, ton écran de jeu, il fait quand même en gros 12 sur 6, et puis après, le reste au-dessus, ça peut exister, mais c'est pas obligatoire. Sachant que le but, quand même, c'est de tuer l'adversaire, enfin, de faire qu'il puisse pas poser un bloc qui va faire qu'il survive. Et les blocs vont toujours arriver par le même endroit, à savoir la troisième colonne en partant de la droite. Ils vont toujours arriver par deux pierres qu'on va pouvoir tourner. Et donc il y a un bouton pour tourner les pierres dans les sens des aiguilles d'une montre et l'autre pour tourner dans les sens inverse des aiguilles d'une montre.
Classique.
Sachant que la pierre qui va être celle de centre de rotation, elle va avoir un petit halo blanc qui va clignoter autour. Donc on sait que c'est elle.
Ouais. Et alors du coup, comment tu fais pour lui faire un game over s'il peut cumuler en dehors de l'écran encore des lignes?
Alors pourquoi? Parce que il faut justement que l'endroit par lequel les pièces tombent, à savoir la troisième colonne partant de la droite au niveau de la 13e ligne en haut, soit bloqué. C'est-à-dire que si maintenant là la pièce ne peut pas se poser, et ben voilà, c'est comme quand Tetris atteint le haut de l'écran, t'es mort.
D'accord.
En gros c'est ça. Mm-hmm. Mais il faut juste qu'à cet endroit-là, maintenant les autres lignes, les autres colonnes peuvent être beaucoup plus hautes.
Ouais, c'est ça. Okay. Les autres colonnes peuvent monter, mais pas celles.
Voilà, faut juste qu'à cet endroit-là, tu puisses encore poser une pièce. Tant que tu peux poser une pièce, et qu'ensuite, ben, même si c'est au ras, tu survis. Mm. Mais si la pièce elle dépasse, t'es mort.
Ok.
C'est pas compliqué.
Bah, faut le savoir.
Voilà, mais...
faut la repérer cette colonne, parce que du coup, elle peut nous sauver la vie.
Sachant que dans le jeu, il y a quand même un truc vachement bien, surtout sur les modes console, même en arcade, si on laisse tourner le jeu, c'est qu'il y a un tutoriel qui est fait par Dan. Alors, ce tutoriel, il a été enlevé des versions plus récentes en Xbox 360, c'est un peu dommage. Donc, il t'explique vraiment toutes les bases du jeu, comment tout fonctionne, à savoir les différentes pierres, les forces qu'elles peuvent avoir, leurs utilités, même comment les tourner, faire des combos, des chaînes et inversement. Donc voilà, il y a un tutoriel qui est vraiment très bien fait, très simple, qu'on regarde, il prend même pas deux minutes et ensuite on a tout compris.
Ouais, ça c'est top.
Donc ouais, non, ça aussi je trouve ça bien parce que c'était pas quelque chose de... comment dire, là ils l'ont fait avec humour en plus, tu vois, le fait qu'ils mettent le personnage le plus faible du jeu qui te le présente avec la petite musique en plus, c'est sympa.
Et celui qui se la pète en plus, quoi, celui qui se croit intelligent et
ouais, le gars fait des humiliations, ça
se fait mettre hibou, quoi.
Sachant que ouais, je vais quand même Dan, c'est vraiment le personnage blague et moi c'est le personnage qui m'a fait vraiment kiffer le jeu, quoi. J'ai parlé un peu de Jones, c'est pas grave. Et le truc c'est que
Martin,
comme dit, il peut faire des humiliations à fond et donc les personnages ont aussi même des coups spéciaux, et les coups spéciaux à Dan, c'est juste des super humiliations, quoi. Ça prouve à quel point le mec il est vraiment useless, tu vois, genre les autres ils font des méga Hadouken, des super Shoryuken, lui non, humiliation.
Mais tu peux peut-être avoir ton adversaire comme ça en le déstabilisant.
Mais c'est ça, mais le truc c'est que si maintenant tu gagnes avec Dan contre quelqu'un qui a un personnage plus fort, tu fais regarde vraiment t'es mauvais, je t'ai gagné avec Dan.
Ah
quoi.
Moi ça peut me déstabiliser complet.
Ouais,
hein,
mais même du genre durant le match, tu bourris le bouton d'humiliation, tu peux trop déstabiliser l'adversaire humain. Donc quoi, ouais, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez rigolos.
Si je comprends bien, dans le jeu en fait t'as l'avatar de ton personnage. à côté du
de exact la... et les avatars en fait sont ceux qui sont tirés d'un autre jeu Capcom qui s'appelle Pocket Fighter où en fait là les personnages sont en SD en super deformed donc ils sont en mini quoi et ils ont repris exactement le même design
avec la grosse tête aussi
la grosse tête là c'est pareil c'est exactement les mêmes donc si voilà en plus c'est quasiment les mêmes personnages que dans Pocket Fighter enfin il y en a peut-être quelques-uns en plus dans Pocket Fighter je crois mais sinon c'est du pareil au même hein. Si le... Pocket Fighter a un plus grand staff de personnages
et là le Puzzle Fighter est pas enfin est pas sorti justement
non,
sur
le Pocket Fighter. Pocket Fighter.
Non, je te demande si le Puzzle Fighter lui est sorti sur console portable aussi.
Oui. Sur GBA, PSP et
GBA aussi.
Ouais, GBA, je l'ai, très bonne version.
D'accord.
Très bonne conversion. Donc ouais, il y a eu plein de portages. Donc voilà, on empile donc des pierres, on empile des cailloux. Donc on va casser des cailloux à la pioche. Et non, on ne casse pas des cailloux à la pioche. Il va y avoir différents types de cailloux. Et donc je vais commencer à les expliquer tant que j'ai du temps.
Oui, tu peux y
aller. Donc il y a les cailloux normaux qui en fait vont arriver toujours par deux. Donc il y aura quatre couleurs, rouge, bleu, jaune, vert. Le truc le plus classique au monde. On ne pouvait pas faire plus simple pour les couleurs d'un puzzle game.
Tout à fait.
Et si on les empile en formant des rectangles, donc plusieurs pierres qui forment un rectangle, t'en as mis 3, ça marche pas, tu vas mis, t'en mets 4, ça fait un rectangle, même 6, donc ensemble, elles vont former une gem power, donc une super gemme, une pierre de puissance, comme il marque dans les notices. Et donc, voilà, si en fait on casse cette, cette pierre-là, aura plus d'impact si tu vas faire une attaque sur l'adversaire.
D'accord.
Parce que les pierres, en fait, il faut que tu les casses. Parce que tu sais bien gentil les empiler, mais il faut quand même réussir à les détruire, à un moment, pour les enlever à l'adversaire.
Et donc, alors, tu les empiles par couleur, ça
tu
fait
les empiles
une gemme.
Par couleur. Tu les empiles
et après,
par couleur.
Ta gemme, comment tu la casses?
Alors, tu casses les gemmes avec une crash gemme, ou une gemme explosive, ou une pierre percutante, comme ils appellent ça. Et donc, ce sont des sortes de mèches dans le jeu où, en fait, si elles sont au contact d'une gemme de la même couleur, sauf que là c'est un petit rond avec une flamme au centre, mais les autres c'est des carrés, et bien si elles sont au contact d'une autre gemme, elles vont exploser.
D'accord, donc il y a un petit truc en plus par rapport aux autres puzzle games, c'est que tu dois casser deux fois presque quoi, la première
non.
fois en
d'abord,
faisant
d'abord,
des...
D'abord tu empiles les mêmes couleurs,
voilà, en empilant, et ensuite
tu casses toute la même couleur, tu casses toute la même couleur qui touche.
Donc
c'est ça le concept.
Il faut attendre qu'il y ait une mèche qui tombe.
Voilà,
c'est ça,
faut que les mèches
arrivent. Alors tu collectes et ensuite tu exploses.
Voilà, c'est tout à fait ça.
J'ai compris.
Ok, et une fois que tu as fait une attaque, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas avoir des counter gemmes qui vont tomber chez l'adversaire. Alors les counter gemmes ou les gemmes de contre-attaque, les pierres de riposte, j'aime bien les différents noms qu'ils ont lancés, ça me fait juste rire quoi. C'est en fait des sortes de pierres déchets qui vont arriver sur le haut de l'adversaire de l'écran. Ça va toujours tomber du haut, ça n'arrivera jamais par le bas. Ça va généralement tomber par ligne de 6, je dis bien généralement des fois plus, des fois moins. Avant qu'elle tombe, il y aura toujours un message d'alerte qui va apparaître dans le coin en haut à gauche de l'écran du joueur, peu importe lequel. Il y aura 3 messages différents sur le nombre qui vont tomber. Donc caution, à savoir attention de 0 à 11 qui vont tomber, donc se dire en gros que le personnage au centre va faire aussi faire une mimique, ce sera une humiliation. De 12 à 29, il y aura le message warning, et là tu vas faire ton coup spécial numéro 1. Et si tu fais 30 pierres ou plus qui vont arriver dans ta gueule, et ben là tu vas avoir le coup spécial numéro 2 qui est le coup spécial un peu ultime des personnages. Et donc chaque personnage a des coups spéciaux assez délirants, genre de leur univers. Voilà, genre Ken, il va faire d'abord un Shoryuken et après un Shoryurepa. Donc c'est le grand Hadoken. Voilà. Je parle plus en détail.
Ah, ouais. Si tout ça vous a plu, vous allez devenir un nouveau challenger. Vous allez devoir sélectionner dans le mode adéquat. C'est pour cela qu'on s'écoute. Here comes a new challenger et selection.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Mettez deux pieds en canard, c'est Try Again qui redémarre. Je me la joue un peu Dan, hein, un peu.
Ah, c'est bon,
bien,
bravo.
Cher auditeur, nous t'aimons. N'oublie pas que nous avons des Facebook et que nous avons besoin de plein d'amis. Donc chacun d'entre nous, les quatre, nous avons des Facebook facilement retrouvables, donc n'hésite pas. Et puis évidemment, notre forum tenu par notre incroyable FF hein, qui nous fait un boulot fantastique, où vous retrouvez nos podcasts, donc www.forumtryagain.com, et c'est le Versus Mode Round 2.
J'ai une question, c'est quoi le podcast cette semaine?
Mario Tennis sur Nintendo 64.
Un jeu que tu avais adoré.
On a tous kiffé ce jeu.
Ah oui, tous adoré.
Tous.
Donc je vais revenir là où j'en étais arrêté avant. Donc je suis en train de parler des gemmes de contre-attaque. Donc une fois qu'on a explosé des gemmes pour les envoyer, enfin pour s'en débarrasser et survivre à l'écran, parce qu'il faut quand même pas que son écran se remplisse trop, on envoie donc des gemmes de contre-attaque à l'adversaire. Et donc ces gemmes vont tomber. Et alors, il faut savoir que selon le personnage qu'on a sélectionné, en fait, les gemmes qu'on va envoyer, les counter gemmes, ne vont pas être les mêmes. Donc c'est ça en fait l'intérêt de choisir un personnage ou un autre, de dire ce qu'il va faire, s'il est fort ou pas, c'est qu'il n'aura pas les mêmes gemmes de contre-attaque qu'il va envoyer. Ok ? J'ai perdu personne ?
Non.
Ok. Et donc ces gemmes de contre-attaque, elles vont avoir un compte à rebours dessus qui va aller de 5 à 0. Et donc, une fois que le compte à rebours aura atteint 0, les gemmes vont devenir des pierres normales. C'est-à-dire qu'avant, on peut pas s'en servir comme pierre normale, et après, on peut s'en servir comme pierre normale.
D'accord. Donc on est bloqué, un peu paralysé pendant un certain temps, quoi.
On est un peu bloqué, néanmoins, on peut tout de même les éliminer. Parce que si maintenant, on explose des pierres qui sont à côté, et qu'une explosion de pierres touche les pierres qui ont le compte à rebours, elles vont aussi exploser, mais juste celles qui touchent,
voilà,
pas les autres.
Voilà, d'accord, on accélère un peu le processus, on gagne quelques secondes.
Sachant qu'en fait, dans les patterns de ce que tu vas envoyer comme counter gem, il y en a qui ont déjà des power gems qui sont ensemble. C'est-à-dire que tu as des personnages, quand tu vas sélectionner ton personnage, ils vont te montrer en fait le pattern d'attaque que tu vas avoir. Et donc, ils vont te montrer ça sur les 6... j'arrive plus à parler.
Oui, quand tu sélectionnes le personnage, tu vois le petit cadre de ce qu'il va envoyer en priorité.
D'abord,
quoi.
Tu vois son icône de sa tête, et ensuite, tu vois ce qu'il va envoyer. Donc, ce qu'il va envoyer, ils vont te le présenter avec 4 lignes et 6 colonnes. Sachant que l'air de jeu fait 6 colonnes.
Ça représente
par contre, ça représente qu'un tiers des 12 lignes que tu as.
D'accord.
Et donc là, tu vas voir effectivement qu'il y a certains personnages qui ont directement des grosses power gems. C'est-à-dire que tu laisses les 4 en même temps, si t'as un jeu qui est à plat, et ben, tu vas pouvoir après t'en servir.
Est-ce que ça veut dire que souvent, dans ce genre de choses où les personnages ont un pouvoir ou font des choses différentes, est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà d'office, quand on sélectionne les personnages, les matchs peuvent être inégaux ou inéquitables?
Tout à fait, justement, absolument, tu apportes un point, je vais l'aborder plus tard, mais c'est pas grave.
Ah, pardon.
Il existe, non, mais c'est, non, ça fait rien, je vais l'aborder maintenant. Il existe, comme dans les jeux de baston classiques, en fait, un classement des personnages qui sont plus ou moins forts.
Une tier list, quoi.
Voilà, une tier list. Et donc, cette tier list, elle est assez. Elle porte à discussion. Néanmoins, j'en ai trouvé plusieurs et toutes s'accordent à dire que le personnage le plus fort est Ken. Et pourtant, Ken, quand tu regardes ce qu'il va t'envoyer, il va t'envoyer que des lignes, mais des lignes entières avec la même couleur.
Ouais.
Alors que les personnages qui, en théorie, seraient les plus forts, sont d'après ce qu'on voit leur pattern, sont Devilot et Akuma, parce que eux, ils t'envoient des trucs en diagonale. Et tu peux pas jouer en diagonale dans le jeu. Il faut que tu joues par horizontal ou vertical, mais t'as pas de diagonale.
T'es pas d'accord avec les classements que t'as trouvés, quoi.
Donc, oui et non, parce qu'en fait, le jeu en diagonale, tu peux le contrer si maintenant, toi, à la base, avant que ça tombe, tu crées un jeu en diagonale. C'est-à-dire que tu vas voir, on t'annonce quand ça va tomber, je l'ai dit avant, on t'annonce que ça va tomber. Donc, maintenant, tu poses ta pierre qui est actuellement pour créer un jeu en diagonale, tu peux anticiper une petite partie.
Ouais, tu crées un diagonale inversé pour pouvoir courir quand ça tombe.
Faut déjà avoir du réflexe, alors, et bien connaître le jeu quand même.
Honnêtement, on va rarement avoir un jeu à plat dans le jeu. Enfin, si tu veux, on va toujours monter des colonnes à droite et à gauche ou des trucs comme ça.
Comme sur un Tetris, quoi.
Non, pas du tout comme sur un Tetris, plus comme sur un Puyo.
Ouais, Puyo, voilà,
pas du tout Tetris. Et donc, du coup, on n'aura pas un jeu qui va être plat. On aura des fois une grande colonne au centre, des fois sur les bords. Donc, ça va être un peu compliqué de pouvoir anticiper tout ce bordel. Et donc, c'est là où effectivement, ils pensent que Ken est le plus fort par rapport à ça. Et sur les différentes tiers que j'ai, c'est ça. Et par contre, le personnage le plus faible, c'est Dan.
C'est Dan. On a compris.
Parce que Dan, il envoie que du rouge.
Donc c'est facile à mettre ensemble et à éliminer. Bah oui.
Dès qu'on a une mèche rouge, on peut tout exploser.
Voilà, mais d'abord, comme je disais, il y a un compte à rebours sur les counter gems, et les counter gems, ce compte à rebours décroît à chaque fois qu'on pose une pièce. Donc il faut jouer assez rapidement. Et en plus de ça, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que toutes les 25 pièces qu'on pose, on obtient une pierre arc-en-ciel ou une rainbow gem qui, elle, permet d'enlever à l'écran la couleur qu'elle va toucher. Par exemple, elle va toucher un bloc rouge, elle va mettre tous les rouges d'un coup qu'il y a à l'écran. Et donc, il va te rester que 3 couleurs. Et donc là, tu pourras former rapidement des power gems.
Alors Martin, est-ce que tu as résolu l'énigme quand cette rainbow... Je ne sais plus quoi, là,
rainbow gem.
Gem touche deux couleurs. Parce que ça peut arriver qu'elle en ait à gauche et en dessous.
La priorité vient toujours à la couleur qu'elle touche en bas.
D'accord,
à gauche
c'est
et en
le bas
dessous.
Qui...
Non, c'est le bas qui est prioritaire, quoi qu'il arrive. Le bas est prioritaire. Parce qu'effectivement, on pourrait maintenant le mettre dans une cuvette où il y a trois couleurs différentes.
Ah, ce serait top.
Plus une quatrième qui arriverait au-dessus pour la dire, avec quatre couleurs. Non, ça ne marche pas.
Et s'il y a une couleur à gauche et une couleur à droite, elle choisit laquelle?
Bah, celle du
toujours
dessus.
Ce qui est en bas, et même si maintenant,
ah, même s'il y a rien en bas.
Si on a pas en
alors,
bas.
S'il y a rien en bas, elle ne va rien éliminer.
Bah, si,
ah,
si, c'est
sinon, tu la poses au sol.
Ouais, avec... mais même avec un truc à côté qu'elle pourrait éliminer, ça marche pas.
Non, elle va toujours faire à chercher en bas.
D'accord.
Par contre, dans les versions HD Remix qu'ils ont senti plus récemment, si elle va toucher en bas et qu'en bas il y a rien, il va automatiquement la retourner pour chercher à voir s'il y a en haut quelque chose. C'est-à-dire que, enfin, si tu veux, la, il va toujours dans des pierres par deux. Et donc, il va automatiquement tourner la pièce pour qu'il prenne ce que t'avais en bas.
D'accord, ouais. Donc, si t'avais du rouge au-dessus, voilà, le rouge passe en bas et c'est le rouge qui s'élimine.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est que dans les nouvelles versions. Ils ont fait des petits changements comme ça.
De notre côté, t'as qu'à te débrouiller pour poser ta gemme au bon moment sur la bonne pièce, quoi.
Voilà. Alors, on peut.
Ensuite, par rapport au counter gemme qu'on envoie, j'ai voulu regarder un petit peu, essayer de comprendre comment ça se fait qu'on en envoie plus ou moins, sachant que si on fait un all clear, c'est-à-dire que si on vide entièrement son écran, ce qu'on peut faire facilement au début avec deux pièces qui s'éliminent, genre t'as un rouge, un vert, et après on t'envoie une mèche rouge, une mèche verte, tu peux tout éliminer en deux pièces, tu vois. Ton écran, ouais. Après il est vide. C'est, admettons, c'était les deux premières pièces que t'avais. Et ben là, tu vas faire un all clear, tu vas envoyer un bonus de 6 counter gemmes en plus.
D'accord.
Ok. Donc quoi que tu fasses, si tu fais juste ça, t'envoies 6 counter gemmes. Maintenant, si tu vas faire des combos ou des chaînes, tu vas aussi envoyer plus de counter gemmes et des power gemmes. Et alors, en fait, le truc, c'est que les power gemmes, ça va correspondre au combo. C'est-à-dire que ça n'en pas au combo. Comment explique ça? Tu vas avoir une grosse power gemme. Si cette power gemme, elle va avoir un nombre, ça va être le carré d'un nombre classique, genre ça va être 9, 25, 16 ou ainsi de suite.
Ouais.
Tu vas faire plus de dommages que si maintenant ta gemme elle va faire genre 6.
Ouais.
Parce que le jeu te fait que tu as un avantage si tu fais des power gemmes qui sont des nombres qui sont des carrés d'autres nombres.
Mais attends, t'es en train de me dire qu'il faut calculer en même temps
qu'on
joue un puzzle game.
C'est un truc de fou.
C'est pas possible, ça.
Non, mais en fait, c'est comme ça que le jeu a été calculé. Maintenant, je t'explique comment ils ont décortiqué ce que tu vas envoyer à l'autre.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu veux être plus puissant, t'as intérêt des fois à faire un jeu, genre en faisant juste des power gemmes de 4, qui vont faire 4, 4, 4, 4, 4,
d'accord,
que faire des power gemmes 4, 6 et des brouettes, tu vois. Je dirais, t'as plus intérêt,
wow,
à faire des petits power gemmes. Non, mais c'est.
Non, mais c'est ce qu'on disait. Ça a un gameplay à la base facile, mais après, il y a plein de petites choses qu'il faut savoir.
Il n'y a pas que ça. C'est comme si maintenant tu fais des réactions en chaîne. Selon les réactions en chaîne que tu envoies, eh ben, ça va être plus important. Tu fais une chaîne de 2, tu auras 4 counter gemmes en plus. Tu fais une réaction de 4, de 2, ça fait 2 counter gemmes. De 3, ça en fait 4. Et tu peux aller jusqu'à 8, tout ça fait plus 34. Maintenant, si tu fais une réaction de 8, tu peux avoir de plus 34.
Plus 34.
Ah, c'est balance.
Alors, comment faire des réactions aussi grandes alors qu'on envoie des pièces qui ont que 2 pierres? Eh bien, c'est très simple. Il faut en fait placer à l'avance des mèches qui sont à des endroits où elles ne vont pas taper.
Ah.
Éliminer une couleur pour qu'on sache taper la suivante.
Donc,
il faut prévoir à l'avance.
Il faut anticiper à fond. Donc.
Ouais, ou même Dr. Mario, d'autres jeux.
Dr. Mario,
voilà, plein d'autres puzzle games. C'est pareil.
Faire
d'abord,
de la merde au début.
Tu montes un gros bordel. Au-dessus, tu mets une couleur qui correspond pas avec toutes les mèches que tu veux et en dessous toutes les couleurs que tu veux. Tu mets ta couleur pour mettre tout ça. Et ensuite, tu descends.
Faut être un petit peu Rain Man quand même pour
jouer
à ton jeu là.
Ça c'est la technique un peu absolue. Hein. En réalité, les gens ils vont pas faire ça. Enfin, les joueurs humains.
Voilà, c'est ça. Les joueurs qui sortent
normaux,
ce jeu dans une soirée entre potes, bon bah normalement
ils vont jouer avec des petites chaînes, genre 3-4,
voilà.
Mais ils vont pas faire des chaînes de 8. Hein. Les chaînes de 8, c'est vraiment les gros salauds. Hein.
Ouais.
Sachant que en fait, ce jeu, j'ai remarqué un truc, il a une grosse communauté aux États-Unis. Il est plus populaire aux États-Unis qu'ailleurs.
Ah ouais.
Aux États-Unis, il a eu plus de portages qu'au Japon. Et au final, c'est les Américains qui ont plus joué à ce jeu.
C'est marrant.
Donc, je pense
ça.
Que c'est les Américains qui ont le plus gros niveau dessus. Bon, après, c'est pas une certitude, hein, c'est une extrapolation. Donc voilà, le jeu il fait comme ça. Donc ouais, après, il y a toute une formule mathématique pour comprendre comment t'envoies tout ça à l'autre. Donc elle est assez longue. Il y a un seul gars sur le net qui a réussi à comprendre ça et à le marquer. C'est dans une fac, tout en anglais. Donc je vais pas faire le détail, mais voilà, j'étais juste pour expliquer.
C'est incroyable.
Donc ça existe. Ça existe quand même tout ça.
T'as vu des vidéos un peu de ceux qui maîtrisaient le jeu et des sortes de chaînes qu'ils pouvaient faire ou pas?
Non.
T'es pas allé,
non, je suis pas allé le voir là parce qu'en fait, moi j'ai préféré jouer tout seul et essayer de les construire,
ouais.
Mais même durant qu'on est dans la démo. Un petit peu, ouais. Parce que maintenant je vais parler des modes du jeu, donc les modes de jeu qui correspondent avec ce qu'on peut voir et pourquoi on va te forcer à jouer bien ou jouer pas bien. Et au final, qu'est-ce qui fait que le jeu a une durée de vie importante ou non? Donc le premier mode, c'est le mode arcade, le seul que tu peux jouer en arcade en fait. Donc là, t'as le choix de 3 difficultés: easy, normal ou hard. Sachant que si tu vas en easy, tu vas avoir que 3 adversaires à affronter qui vont être vraiment simples à abattre. Dès lors que tu vas être en normal, la barre elle va être bien plus haute. Là d'un coup tu vas avoir 8 adversaires. En hard tu en auras aussi 8, la difficulté va être encore bien plus forte que ça. Mais c'est pas la difficulté maximale du jeu. Comme dans tout bon jeu Capcom, dans ce mode-là de jeu, si tu perds un crédit et que tu remets une pièce ou que tu relances le jeu, eh ben ça va te faire un point en plus. Donc tu pourras savoir à la fin de ta partie combien t'as perdu de crédit ou non.
D'accord.
Sachant que si tu one-credit le jeu, t'as des fois des petits bonus en plus dans les cinématiques, mais c'est vraiment ridicule.
Ouais.
Parce que tout ce qui est cinématique et autres, il faut quand même savoir qu'il y a des... Ah ouais, ça c'est un truc marrant. Quand tu joues en mode arcade, en normal ou en hard, une fois que t'as passé les 4 premiers adversaires, tu as une intermission. Intermission, c'est une petite scène, une petite cinématique où tu vois les persos en SD qui font des conneries.
D'accord.
Et donc, ouais, ils se balancent des vannes et tout.
Compléter un peu l'histoire.
Ils tombent dans un trou. Ouais, non, c'est juste pour te détendre un petit peu, te faire rigoler. C'est sympa. Et tu peux les débloquer, comme plein d'autres choses, comme les personnages cachés, avec le Street Puzzle Mode. Parce que, comme je disais avant, il n'y a pas de mode un joueur. Par contre, le mode Street Puzzle, il va correspondre au mode un joueur. Et donc, tu vas avoir des sortes de missions. C'est-à-dire qu'on va t'imposer le personnage que tu vas prendre. Et on va aussi t'imposer ton adversaire. Et avec ça, tu vas pouvoir bien débloquer les personnages cachés. Les personnages cachés, il va falloir faire des codes particuliers pour les avoir. Mais si maintenant tu fais la manipulation alors que tu l'as pas débloqué dans Street Puzzle, ça ne marchera pas.
Oh.
Sauf en arcade. En arcade, t'as pas ce mode-là. Mais dans d'autres versions du jeu, ben voilà. Si maintenant tu connais même le code pour Dan, le code pour Dan, c'est LRA, c'est le truc le plus bateau.
C'est un code que tu vas gagner dans le jeu ou c'est un code que tu cherches sur internet?
Tu le gagnes dans le jeu. C'est-à-dire que d'abord, dans le jeu, tu vas combattre Dan avec Donovan de mémoire, dans l'émission de Donovan. Et une fois que tu as battu Dan, tu gagnes le code pour pouvoir l'incarner. Que
D'accord.
ce soit dans n'importe quel mode du jeu, après. Tu peux l'incarner. Mais tant que t'as pas gagné ce code, tu ne peux pas l'incarner.
D'accord.
Et c'est le même code, enfin, et s'il y a comme ça les codes pour les trois personnages cachés. Donc, Donovan, Dan et Akuma. Non, pas Donovan. Devilot. Sachant que Devilot et Akuma sont vraiment deux personnages abusés au niveau de leur pattern, parce qu'ils sont diagonales l'un dans un, l'un, j'arriverai pas à le décrire. C'est des diagonales inversées.
D'accord.
Une fois c'est une diagonale qui va aller de en haut à gauche vers en bas à droite, et une fois de en haut à droite vers en bas à
D'accord,
gauche.
D'accord, donc là non seulement tu dois préparer ton jeu en diagonale, mais en plus dans le bon sens, donc ça devient encore plus corsé.
Et
quoi.
C'est pour ça qu'en fait il y a aussi toute une polémique pour dire que Akuma, il est le boss de fin quand tu joues en mode arcade, et au final les gens trouvent que Devilot est plus dur à battre parce que son pattern qui est inversé par rapport à Akuma, il est plus complexe à abattre. Et c'est pas faux, dans le sens où, comme je le disais avant, les pierres vont arriver de la troisième colonne partant de la droite.
Mmh.
Et c'est un écran avec 6, et donc le truc c'est que Devilot, son pattern, il faudrait qu'en fait tu commences à monter en bas à droite de l'écran. Donc ça t'approche plus proche de la mort que si tu montes en bas à gauche.
Tout à fait.
Mmh. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que
si,
je raconte
puisque
là.
Puisque la mort est à droite, forcément,
voilà,
pas plus à droite, forcément.
Et donc du coup, ouais, Devilot est légèrement plus fort que Akuma, même selon les tier listes. C'est un peu bizarre, donc voilà. Après, on peut aussi affronter Dan, Devilot et Akuma dans ces modes-là. Seulement pour ça, il faut remplir des conditions particulières. Par exemple, Dan, pour l'affronter, il faut que tu fasses... Alors attends, je vais retrouver ça dans mes notes. Poum, poum, poum. Alors voilà, pour affronter Dan, il faut que tu fasses des chaînes qui sont inférieures à 4. Que tu ne fais pas des power gems qui sont supérieurs à 20. Que tu ne termines jamais tes matchs avec un super finish. Et que tous tes matchs sont supérieurs à 1 minute.
Ça fait beaucoup de conditions.
Ça fait 4 conditions. Il faut faire ça sur les 8 premiers, sur les 7 premiers matchs.
Faut pas trop
bien jouer, quoi. Il arrivera alors à ce moment-là en 7ème caractère. Sur les 6 premiers, il arrivera en 7ème.
D'accord.
Ok. Alors, pour Devilot, c'est un peu l'inverse, parce qu'il faut faire que des chaînes qui sont supérieures ou égales à 4, non, il faut faire au moins une chaîne supérieure ou égale
à
4.
Parce que j'allais dire que des chaînes.
Non, que
des
une,
chaînes.
Au moins une. Il faut avoir une power gem qui est au moins supérieure ou égale à 20. Il faut faire un match qui est au moins inférieur ou égal à 60 secondes. Et il faut au moins avoir gagné un round avec une super finish. Donc, c'est-à-dire au moins 30 gemmes.
Waouh.
Donc, en gros, on peut affronter les deux si d'abord on fait tout ce qu'il faut pour aller affronter Dan, c'est-à-dire qu'on joue un peu comme un kéké.
Ouais.
Et qu'à Dan, on fait un super match, c'est-à-dire qu'on Dan, on le torche en moins d'une minute, qu'on lui fait une chaîne de 4 avec à la fin une power gem de plus de 30.
Les extrêmes, quoi.
C'est possible, ça?
Ouais, c'est possible. Et à ce moment-là, tu peux rencontrer les deux et après t'es encore Akuma. Donc tu peux faire une partie où tu rencontres les trois.
Ah.
C'est abusé, mais c'est faisable.
Ouais.
Voilà, vraiment pour les maîtres du jeu.
Tentez, chers auditeurs, tentez, voilà, allez-y. Vous nous enverrez vos vidéos.
Et si vous faites avec Dan, vous êtes un dieu.
C'est pas possible.
Voilà, avec Dan. Donc, les autres modes. Donc, le Street Puzzle, c'est le mode d'un joueur. Après, il y a encore le mode versus, donc deux joueurs humains qui s'affrontent, là où ils choisissent leur personnage. Et dans le Street Puzzle mode, on peut débloquer le Master Arcade mode. Alors, ce mode Master Arcade mode, qu'est-ce qu'il a de plus à part que la difficulté est augmentée, l'intelligence artificielle augmentée des adversaires. Il y a aussi un fait que je n'ai pas encore abordé. Quand on envoie des gem counters à l'adversaire, ça s'affiche avec un petit message. Et donc, tant qu'on n'a pas posé la pièce qu'on a actuellement, ça va pas tomber. Ok ? Si maintenant la pièce qu'on est en train de faire tomber, elle va aussi créer des counter gems chez l'autre, et ben ça va réduire les dommages que tu vas prendre, voire lui les renvoyer.
D'accord, ouais.
Et ben ceci, en Master Arcade mode, ne fonctionne plus.
D'accord, tu peux plus compenser voilà. En disant ah, je m'envoie ça, mais
tu
je genre,
ah ouais
ça,
tiens, je vois un truc qui m'envoie dans la gueule, du coup je fais quelque chose pour réduire le dommage que je vais prendre. C'est ça, ça ne fonctionne pas.
Ah oui, hard.
Hard. Et par rapport au dommage qu'on va prendre, il y a aussi autre chose que j'ai pas précisé par rapport à Akuma et Devilot, c'est que eux ils vont encaisser beaucoup moins. C'est-à-dire que tu vas faire une réaction genre pour l'envoyer 30, ils vont apprendre que 70% des 30.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi plus forts en théorie.
Ouais, bah oui, forcément.
Bah oui, parce qu'ils vont prendre beaucoup moins.
T'as intérêt à jouer très vite et à faire pas mal de chaînes pour et réussir à les battre.
Ça a aussi été revu dans les portages plus récents sur Xbox 360 et compagnie, dans les versions HD Remix, où en fait, seul Devilot va prendre moins de dommages, Akuma va prendre autant de dommages, mais va envoyer plus. Genre, au lieu d'envoyer 100%, il va envoyer 120% de ce qu'il doit envoyer.
Mmh. Enfin, ils ont choisi l'autre difficulté.
Oh, ils cheat. Hein.
Ils ont recalibré la difficulté. Donc, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Donc, dans les autres modes, il y a encore le mode goodies, où en fait, dans le mode goodies, tu peux consulter tout ce que t'as gagné. Donc, les sons, les codes que tu gagnes, il y a des artworks que tu peux consulter, il y a des photos, il y a la chanson de Sakura, les voix digitales des personnages. Donc, plein d'autres bordels. Il y a le training démo, donc ça, c'est un autre mode où tu vois justement Dan qui t'apprend à jouer. Il y a les options pour paramétrer le jeu, la difficulté, le temps des matchs, inversement. Il y a le mode backup sur console qui permet de sauvegarder, d'effacer ses sauvegardes ou pas. Et la version PC a aussi un truc en plus, qu'il n'y a que la version PC là, c'est le mode original, où là, eh ben, tu peux choisir en fait le temps qu'on met les counter-gems à arriver. Enfin, le temps que les counter-gems vont changer autre chose. Normalement, c'est à partir de 5 à 0. Là, tu peux par exemple mettre de 1 à 0, ou mettre plus ou moins.
Tu veux dire qu'elle dure moins longtemps exploser, quoi. Enfin, se transformer en.
Voilà, ça, tu peux paramétrer. Tu peux paramétrer la force d'attaque et la
force. C'est maximum combien d'ailleurs, du coup, que tu peux mettre en compteur? C'est 9.
Je sais pas, j'ai pas pris la version PC, donc je sais pas.
D'accord.
Mais je pense que ça doit être 9 le maxi.
Ouais, pour une question d'affichage, probablement.
Donc voilà, il y a quand même tous ces modes-là de jeu. Donc au final, il y a un bon replay value, moi, je trouve, sur le jeu. Sachant que, le temps de faire le tour avec tous les personnages, c'est pas mal. Et je dirais même que pour être un bon joueur, enfin si on veut être un bon joueur et avoir de facilité, il faut quand même apprendre les patterns des gens qu'on affronte.
Ah oui, grave, ouais. A priori. Hein.
Parce que comme ça
c'est
va
marrant
tomber...
de parler de patterns, c'est vrai, parlant quand on est
sur un puzzle
game,
c'est
quoi,
énorme.
C'est assez,
ouais. Parce que c'est par rapport à ce que t'en vois, chacun voit quelque chose de différent.
C'est vrai, quand on parle de patterns, on parle de mouvement, de façon de se déplacer, alors que là, en fait, c'est juste la façon d'envoyer la merde aux autres, quoi.
Là, c'est la manière d'anticiper le contre que tu vas mettre en place par rapport à qui tu affrontes. Sachant que, comme j'expérimente, il y avait une tier list, et que sur la tier list, il y a quand même des gens qui sont vraiment très mauvais, et les personnages les plus bas après Dan, c'est moche à dire, mais c'est quand même Felicia et Chun-Li et Ikosen, à savoir les filles, quoi. Il n'y a que Morrigan qui se classe 3ème.
Comme des bazar.
Et donc, le truc, c'est que si on regarde bien la tier list, les plus forts, c'est d'abord Ken, après c'est Donovan, et après c'est souvent Morrigan. Et ensuite Sakura. Et seulement arrive après Akuma et Devilot. Donc, ce qui est abusé, c'est qu'ils ont quand même 4 personnages qui sont plus forts que les boss de fin théoriques.
D'accord, ouais.
Donc pour les très bons joueurs. Hein.
Et question là sur le HD Remix, ils ont inclus un mode online aussi sur les dernières versions.
Parce que tu peux y jouer que online.
D'accord.
Enfin tu peux avoir le jeu que online. Il est pas sorti en version achetable.
Pas ça que je veux dire. Mais t'as un mode jeu en ligne avec la possibilité de jouer avec des joueurs en ligne ou pas?
Il me semble. Moi j'ai testé la démo parce que sur l'Xbox Live il y a la démo gratuite. Là tu peux jouer 2 personnages Ryu et Ken de mémoire, plus. Déjà là ça fait une bonne mise en bouche. Et là, je vais maintenant.
T'as pas joué contre des joueurs humains en ligne, quoi. Essayer.
Non, ça, ils te proposent pas dans la démo. Il aurait fallu que je puisse jouer au jeu complet. Et ça, j'ai pas pu le faire à part sur la version Saturn et Game Boy Advance que j'ai retourné. Et donc là, maintenant, je vais rapidement parler. Le jeu est vraiment exceptionnel. Allez-y, foncez. C'est un bon puzzle game. C'est facile à dire. Hein, conclusion évidente. Je vais anticiper sur une question d'auditeur qu'on a reçue. Donc, si je ne m'abuse, c'était Alex qui demandait la question. J'ai retrouvé sa question exacte. Voilà, je l'ai sous les yeux. Existe-t-il des différences entre les différents portages du jeu, notamment les versions plus modernes? Alors oui. Donc toutes les versions qui sont marquées HD Remix. Il y a un Américain qui a revu les patterns des personnages. Pas tous. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait un rééquilibrage. Donc par rapport à cette tier list que j'expliquais avant, où il y avait des personnages qui étaient trop bas, il a rééquilibré en changeant les patterns d'attaque. Il a aussi changé le pouvoir que pouvait avoir le Rainbow, enfin la gemme arc-en-ciel. Donc il y a différentes choses qui ont été revues. Donc oui, il y a eu des très bonnes choses. Donc ça intéresse, j'ai un lien complet pour expliquer ça. Tout un Américain, où ça peut intéresser les gens. La mode arcade n'a pas street puzzle. La version PC mode originale, ça j'ai déjà dit. Les patterns ont été changés, d'autres vues à la hausse. Et le gameplay, principalement là où il change, c'est que sur les versions GBA, il faut maintenir LWR pour se déplacer plus vite. Voilà.
Eh bien, très bien. Eh bien, on va mettre à l'honneur le personnage héros, c'est Dan. Dan ouais. Stage.
M57 Radio. M57 Radio.
Et voilà, nous entrons déjà, tels des Rolling Stones, dans notre dernière partie, le Reload. Et je redonne tout de suite la parole alors, à Lionel qui va discuter avec Martin, on va dire, parce qu'il
grave.
A encore pas tout à fait fini.
C'est pas grave.
En tout cas, grâce à toi, Martin, on a appris que les cailloux sont dangereux quand même.
Ouais.
Faites gaffe aux cailloux.
Ouais, d'ailleurs, on le savait déjà avec Pokémon, parce qu'il y a Racaillou dedans.
C'est vrai.
Donc, ouais, Martin, alors tu m'as dit que tu avais encore une petite question d'auditeur là.
Ouais, vas-y.
Donc, Alex qui demandait quelles étaient les spécificités de ce jeu en termes de gameplay par rapport aux autres jeux de, du même type.
Alors, je vais commencer à répondre avec une anecdote personnelle. À savoir que ce jeu, si j'ai pu jouer sur Saturn, c'est grâce à notre plus fidèle auditeur Alex, merci à toi, parce que c'est lui qui me l'a prêté quand même. Et qu'on lui a acheté parce que dans le jeu il y avait Dan. C'est juste pour ça, parce qu'en fait on voulait essayer des matchs Dan contre Dan et que voilà le jeu était bon, mais je veux dire c'est la raison qui m'a poussé à me dire tiens on va lui offrir ça un jour comme jeu, donc on lui a offert. Et les spécificités en termes de gameplay, c'est que ça s'est adapté par rapport au fil des années. C'est-à-dire qu'ils ont revu certaines choses. Donc comme je disais avant, la version GBA, si maintenant tu maintiens les boutons L-Ware, tu peux te déplacer plus vite. Les premières versions du jeu, tu ne pouvais pas poser une pièce directement en faisant haut. Sur les versions plus modernes, tu peux. Ils ont revu ça, par exemple, comme je disais avec les versions 360, puis ils ont revu les patterns. Donc les patterns qu'ils ont revus, il y en a 3 qui ont été revus.
Au final, si on regarde, ça a suivi un peu la même évolution que les Tetris, puisque Tetris, ils ont inclus la même chose aussi. Par exemple, le fait de pouvoir, pas forcément se déplacer plus vite, mais au moins le fait de descendre la pièce instantanément, ça, ils l'ont mis dans les dernières versions.
Si tu veux, ils ont gardé le même fonctionnement de jeu qu'ils avaient dès le début. Ouais. Et après, ils se sont adaptés par rapport à tout ce qu'il y avait qui sortait en même temps par rapport à la concurrence. Ils se sont fixés dessus.
D'accord.
Et autrement, je pourrais encore rajouter par rapport à l'autre question que j'avais déjà commencé à répondre, c'était les différences. Alors au niveau des différences, là que j'ai pas encore pointé, c'était les codes ne sont pas les mêmes selon les versions. J'ai pas vu deux versions avec les mêmes codes à faire.
Les codes pour
les personnages cachés.
Pour les personnages cachés.
Ouais, que ce soit les versions arcade, Game Boy Advance, Saturn, PC, peu importe, ça c'est des codes différents.
C'est un jeu Capcom.
Oui.
Donc le code Capcom et tout ça, il fonctionne.
Il ne sert à rien. J'ai pas trouvé d'utilité au code Capcom et en même temps t'as pas les mêmes boutons partout.
D'accord.
Et ils ont aussi enlevé certaines choses des versions plus modernes, à savoir que lorsque tu gagnes, ton personnage dit une phrase et des fois ridiculise un peu l'autre et fait une pause particulière. Dans les versions plus modernes, ils ont mis une seule pause. Avant, t'en avais 3 ou 4. Là, ils ont dégagé ce nombre de pauses-là.
Feignant,
c'est dommage. C'est un peu dommage. Ils ont aussi changé quelques arrière-plans. Ils ont changé quelques musiques. Ils ont aussi enlevé 2-3 couleurs. Ils ont changé des arrière-plans. Donc, c'est rien de bien méchant. Mais au final, je pense que... Je conseillerais aux gens d'aller sur les versions plus anciennes que plus modernes. Parce que le fait qu'ils aient réduit les marges entre les personnages, je trouve ça quelque part un peu dommage. Parce que quand tu progresses dans le jeu, quand tu fais le mode histoire, je trouve ça bien de te dire que tu vas pouvoir commencer avec des adversaires plus faibles et augmenter en difficulté.
Ouais.
Alors que là, si maintenant tu commences avec quasiment tout ce qui est rééquilibré, tu auras une difficulté constante du début à la fin, mais qui va être très dure. Le jeu vraiment va être dur. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher, le jeu va être dur.
Ouais.
Donc je trouve ça un peu dommage.
C'est vrai que moi j'ai essayé le jeu avec toi et sans parler du fait que tu m'as torché, bon ça c'est une évidence.
C'est une habitude.
C'est surtout que c'est difficile en fait de se mettre dans le bon. Moi j'ai jamais été trop les jeux style Puyo et tout ça. J'ai du mal en fait à me mettre dans le truc en fait quoi, à trouver une organisation de mes pièces. Pour arriver à faire des chaînes et des choses comme ça, j'ai du mal à trouver la mécanique du jeu.
C'est une habitude, Martin.
C'est une habitude et
il faut se forcer aussi à le faire.
C'est propre à chaque puzzle game. Alors moi, des fois, j'en parle des stratégies qui sont les mêmes sur les différents puzzle games, bonnes ou mauvaises, mais c'est pas évident. J'avoue que celui-là, il est pas si facile que ça à maîtriser pour mettre un tout petit jeu en place, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Je regardais tout à l'heure pendant que vous parliez les vidéos justement d'un gars qui torche en moins de 30 secondes un adversaire en faisant une chaîne de 6, mais un truc vraiment barbare quoi. Et enfin c'est bourrin quoi, mais ouais. Jamais tu vois, quand tu vois le jeu en place, t'as l'impression qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a empilé tout n'importe comment, et dès qu'il pose son truc t'as tout qui s'enchaîne. Ouais. Et sans
ça, je dirais que c'est un peu la caractéristique de beaucoup de puzzle games.
Ouais.
Qui ont ce système avec des chaînes que tu construis à l'avance mais qui vont se détruire qu'une fois que t'auras posé une pièce.
Ouais, c'est ça.
Il y a des puzzle games où tu vas pouvoir construire tes chaînes au fur et à mesure et donc les mettre en place, donc c'est bien visible, mais quand tu dois tout anticiper, il faut faire un calcul mental mais énorme.
Ouais, mais c'est ça, faut réfléchir non-stop.
Et puis le souci, moi c'est ce qui m'arrive, j'aime bien les puzzle games, et souvent les premières étapes, pendant un certain temps dans le jeu, tu n'as pas besoin de faire des chaînes pour pouvoir avancer et gagner tes parties. Et très souvent, tu arrives à t'en sortir, à te dépatouiller jusqu'à quand même assez loin, et tu ne te forces pas à en faire. Et tout d'un coup, tu vas arriver à un niveau où ça y est, tu peux plus faire autrement, et tu te dis, ben merde, il va falloir que je repanne tout le jeu depuis le début parce qu'il faut que je me force à essayer de réfléchir, chose que tu n'as pas fait la première fois. Donc ça, c'est important dans un puzzle game, de te forcer à tout de suite comprendre la logique du jeu.
Et c'est surtout, c'est ce que disait Martin une fois quand tu parlais de, quand tu parlais justement de Pokémon Puzzle League, où tu disais que limite t'avais réappris à jouer après quand t'avais commencé à remonter les niveaux, quoi.
À faire les chaînes.
Et c'est un peu ça le principe du, puzzle game.
Néanmoins, pour ceux qui veulent une stratégie de base, je peux en donner une. Commencez par remplir votre colonne à gauche, vos deux colonnes à gauche, le plus haut possible. Parce que c'est celle qui va être le plus loin, donc c'est pas celle qui va faire la mort.
C'est la moins dangereuse.
C'est la moins dangereuse, et en fait, en montant un jeu comme ça, tu peux déjà créer des power gems ou ensuite que tu pourras casser quand tu veux.
Oui, parce qu'en plus, on peut calculer un peu le moment quand même où on va avoir sa power gem et qui va arriver.
Challenge ultime que j'ai vu sur internet et que là, je pense, je ne ferai jamais, mais alors si quelqu'un veut réussir à le faire, c'est terminer le Master Arcane Mode en zéro crédit avec Dan.
Ah, donc ça a été fait.
Donc voilà, ça vraiment ce serait respect absolu, et donc ça c'est du challenge à fond. Je pense que moi je vais peut-être m'y essayer, mais j'arrêterai très vite. Hein.
On a déjà parlé de QI dans les jeux, mais là je pense qu'il faut un QI quand même assez élevé.
En même temps, Dan, s'il fait vraiment des grosses chaînes, il va inonder l'adversaire de blocs, même si c'est des blocs rouges, et il va être tout en haut, il va perdre quasiment.
Quand tu joues avec Dan contre un autre personnage qui n'est pas Dan, si tu veux gagner, il faut que tu te dises qu'il va falloir que tu envoies une fois l'assaut, c'est pas plus.
Ouais,
et donc en fait.
En une fois quoi.
Voilà, il faut que tu construises ton jeu pour qu'à un moment tu vas tout envoyer et qu'il faut que tu regardes quand l'adversaire, tu vas réussir à le tuer en un coup, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est vachement dur.
Ah oui.
C'est tout.
Ouais.
Moi j'ai fini. J'ai même dépassé.
On a parlé de puzzle game. C'est le sujet du jeu.
Donc effectivement, c'est vrai qu'on a parlé du puzzle game sans forcément expliquer ce que peut être un puzzle game. Puisque bon, en fait, par définition, c'est un jeu qui fait appel à la réflexion et du joueur et à la logique du joueur surtout. Donc ça peut. En fait, le puzzle game peut avoir plusieurs formes. Donc c'est vrai qu'un des plus connus qu'on a. Même peut-être des plus connus de l'histoire du jeu vidéo, pour beaucoup de joueurs c'était Tris quand même, qui a été quand même une référence pendant des années et qui continue en fait à envahir un peu de temps en temps les charts, puisqu'il continue à sortir quelques jeux plus ou moins bons d'ailleurs de Tetris. C'est vrai que c'est quand on réfléchit, Tetris c'est un concept en fait qui est vraiment basique. Qu'aurait pu être inventé limite par un gamin de 4 ans, quoi. Je veux dire, empiler des cubes, c'est ce qu'on fait depuis tout petit, quoi. Et sauf que là, ils ont réussi en fait avec un principe simple d'empiler des pièces de composées de 4 blocs en fait. Avec toutes les possibilités de pièces de formes qu'on peut faire en 2D avec 4 blocs de la même taille. Et en les empilant, en les emboîtant les uns dans les autres, à partir du moment où on fait une ligne, on efface, quoi. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, se dire que, bon, je sais pas, tous là dans la pièce, je pense qu'on doit cumuler des centaines d'heures à Tetris, quoi.
Grave.
Facilement, quoi. Et franchement, tenir en haleine des millions de joueurs avec un concept aussi simple, c'est ça, moi je dis, c'est ça toute la force, en fait, du puzzle game.
C'est la beauté de l'art.
C'est le génie.
Voilà. Donc, un autre jeu qui pour moi aussi rentre un peu dans cette catégorie là, c'est le démineur, quoi.
Ah ouais, le truc
mais le plus basique possible, avec des graphismes quasi inexistants, genre voilà quoi. Moi j'ai déjà joué même dans des versions qui étaient encore en noir et blanc, quoi, enfin les toutes premières versions du démineur. Et pourtant c'est un truc qui pareil on l'a même encore tous sur nos ordinateurs au jour d'aujourd'hui, et on de temps en temps quand on se refait une petite partie de temps en temps, quoi.
Le mode débutant là où il y a que 10 bombes qu'on arrive des fois en 6-8 secondes,
c'est
quand
ça,
on a de la chance
avec un petit record qu'on peut arriver à faire, mais voilà quoi. Donc c'est des concepts assez simples qui au final sont fédérateurs, parce que justement c'est simple, on peut faire une partie rapide, et c'est là tout le principe du puzzle game généralement. Mais en même temps, vous pouvez faire une partie rapide et autres, mais vous pouvez aussi en enchaîner des parties pendant des heures sans vous arrêter, tellement c'est addictif, quoi.
Moi je suis addict, je le dis clairement. Souvent quand je lance un puzzle, je m'arrête quand il n'y a plus de batterie dans la console portable ou vraiment quand je vois qu'il est 4h du matin.
Alors quand encore, c'est une console des salons, je vous dis même pas, quoi.
4h ou 5h du matin, c'est déjà vous.
Et aujourd'hui, je veux dire, on est rentré dans une ère avec tout ce qui est téléphone, smartphone et autres, tactile, tablette et compagnie, tout ça fait la part belle en fait à ces jeux, à ces puzzle games, puisqu'on se retrouve à chercher en fait souvent bon voilà les gens qui ont les petits des smartphones ils aiment avoir un jeu qu'ils peuvent faire rapidement comme ça en attendant le bus ou en attendant une réunion ou même pendant une réunion j'en ai vu.
Et c'est pour les bons joueurs.
Et voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent des concepts qui demandent quand même, d'être assez posé et tout ça, et pas forcément de s'exciter sur son truc, et qui permettent d'y jouer calmement, quoi. Je veux dire, c'est pas, vous pouvez y jouer discretos sans vous faire caler,
c'est alors pas que si vous jouez à DDR, c'est mort, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un truc qui nécessite pas forcément d'avoir du son, parce que voilà, à jouer un petit niveau comme ça, sur une petite partie détente, c'est faisable facilement, quoi. Et par exemple, c'est grâce à ça qu'on a des petites perles qui sont sorties comme World of Goo ou le célébrissime maintenant Angry Birds où tout le monde a ça sur son mobile quoi. C'est des petits puzzles tout cons mais qui voilà qui permettent aux joueurs de s'amuser rapidement avec une et en même temps il y a quand même toujours ce système de scoring propre au puzzle game où on va essayer de se classer ou d'avoir un meilleur score.
Sur Nintendo DS, il y en a beaucoup comme The Keeper et tout ça.
Ouais, et c'est ça. On a énormément de sur toutes les petites machines. C'est vraiment des concepts fédérateurs. Quoi. Donc voilà. Malheureusement, Martin m'a mangé pas mal de ma rubrique.
Et
donc
malheureusement, c'est déjà la fin. Je vous annonce qu'on se quitte avec le Ken Stage, la musique continue et le ranking. La semaine prochaine, on va avoir un gros boulot parce qu'on décortique un monument du jeu vidéo Shenmue sur Dreamcast. Et puis je vous laisse entre les mains de nos amis de Scud en Vrac. Bonne fin de soirée sur M57. Bisous.
Ciao. La semaine prochaine, jouez bien.
Salut à tous.
M57 Radio.
Génération Prestart. Game over.